Laura Adler, l'heure bleue sur France Inter.
Nous vivons tous en ce moment en pensant à l'Ukraine, aux horreurs qui s'y déroulent. Nous dont les cœurs brûlent de honte devant les Ukrainiens et de douleur. Ce sont les mots d'André Markowitz dans son blog rédigé il y a 2 jours. André Markowitz qui nous a aidés pendant des jours et des jours à choisir des textes de Dostoïevski pour toute cette semaine consacrée l'heure bleue à l'œuvre de Dostoïevski. Cette émission et cette série d'émissions, nous avons décidé de la conserver pour différentes raisons, mais aussi parce que nous pensons que l'œuvre de Dostoïevski peut nous aider à mettre en perspective et à imaginer des stratégies pour l'après-Poutine. Merci André Markowitz d'être avec nous ce soir. Avant de nous entendre, vous et Arthur H. qui va lire des extraits des Carnets du sous-sol, je voudrais vous demander dans quelle situation émotionnelle, psychique et politique vous vous trouvez aujourd'hui.
Je suis dans un état d'indignation profonde, de rage, évidemment de grande inquiétude, sachant que cette guerre ignoble de Poutine contre l'Ukraine est aussi une guerre contre la culture russe. Je me suis rendu compte d'une chose qui m'a stupéfaite, c'était que les chars passaient sur le domaine de Tchekhov, sur le domaine de la Frisée. Je veux dire, vous savez, dans la Frisée, ils disent, maintenant, le chemin de fer passe tout près, on prend le train, et puis voilà, et ils vont à Kharkov comme leur première grande ville. Donc c'est juste là, en ce moment, c'est là que se passe la guerre. Parce que les chars passent sur les gens, sur les paysages, naturellement, et tout ce qui, au XXe siècle, est passé, tous les chars qui, au XXe siècle, sont passés par là. Tout ce que l'Ukraine a eu à vivre au XXe siècle, la guerre civile, le stalinisme, la mort, le génocide et les nazis.
Alors on voit bien aujourd'hui que les forces ukrainiennes et que le peuple ukrainien résistent de toutes les manières possibles. Et d'ailleurs vous y faites allusion dans votre blog, vous rendez hommage aux Ukrainiens, vous dites « chacun de nous fait ce qu'il a la force de faire, certains sortent sur les places et se retrouvent à la police, certains écrivent des pétitions, certains emmenant leurs enfants vont à l'église pour prier pour que la terre ukrainienne continue à exister, tout cela a un sens. »
Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est une jeune femme absolument formidable et toute simple que je suis de temps en temps sur Facebook, qui est une jeune femme russe de Yekaterinbourg. Et qui écrit ça. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de solidarité en Russie avec l'Ukraine. De partout m'arrivent des messages que les gens sont radicalement contre la guerre, parce que l'Ukraine et la Russie, je ne peux pas dire que c'est le même pays, mais c'est les mêmes gens, c'est une culture, c'est un même monde. Et les gens en Russie ont une conscience très aiguë de ça. Moi, j'ai peur que on aille vers la terreur la plus grande. La dernière chose que j'ai vue là, au moment où vous me téléphonez, c'est une annonce de l'armée officielle de l'armée russe qui dit que les habitants de Kiev sont libres de quitter leurs habitations. C'est hallucinant. Si c'est vrai, ça veut dire qu'ils sont prêts à bombarder.
Alors, dernière question, André Markowitz, avant de commencer cette série toute cette semaine autour de Dostoïevski, et encore merci infiniment de nous avoir tant aidé à la préparer. Gogol était ukrainien, Bulgakov était ukrainien, Dostoïevski était russe, il incarne même encore aujourd'hui, en 2022, l'âme russe. Comment peut-il nous aider à mettre en perspective cette guerre qui se déroule en Ukraine ?
Il n'y a pas d'âme russe, il n'y a pas d'âme ukrainienne, il n'y a que des écrivains différents et des civilisations différentes. La culture et les tanks sont contradictoires. Et Dostoïevski, même s'il est un nationaliste, je ne pense pas qu'il soit responsable du pouvoir mafieux et assassin de ce monstre qui est aujourd'hui au pouvoir à Moscou. Même si le dit monstre se réclame de lui, et même si une grande partie de l'idéologie de Poutine, la Grande Russie, et la recréation de l'Empire russe. Mais l'Empire russe et Dostoïevski, là encore, c'est des choses très différentes et beaucoup plus complexes. Il ne faut jamais oublier que les victimes de la dictature en Russie sont aussi les écrivains. Pas que les écrivains, mais aussi les écrivains. Il ne faut jamais oublier que Lermontov, quand il est mort, à même pas 27 ans, Nicolas Ier, empereur de Russie, a dit comme épitaphe « Sabak et sabak yosmirk », ce qui veut dire « un chien mort de chien ». Il a dit ça pour le plus grand poète russe après Pouchkine. Et combien de gens, combien de millions et de millions de gens en Russie ont été brisés par le pouvoir russe. La culture russe existe. Elle est magnifique. Et les gens en Russie sont solidaires avec les gens en Ukraine. Et c'est les mêmes. Et ils sont frères.
Ben merci infiniment, André Markovits. Grâce à vous et grâce à ce long compagnonnage, à l'heure bleue, ce soir, à partir de ce soir et ce jusqu'à jeudi soir, Dostoïevski, la folie Dostoïevski numéro 1.
L'heure bleue sur France Inter.
Voilà ce que je suis. Et même si j'avais voulu ne pas avoir la moindre grandeur d'âme, si j'avais désiré au contraire tirer vengeance de mon offenseur, j'aurais été bien incapable de le faire parce que, sans doute, je n'aurais jamais pu me décider. Et ça, même si j'en avais eu la possibilité. Pourquoi n'aurais-je pas pu me décider ? Je veux dire deux mots sur le sujet.
Du trouble d'abord, de l'effroi ensuite, de la fascination sûrement. Nous sommes précipités dans le chaos, dans le vide, du dedans et du dehors. Nous sommes égarés, il nous entraîne dans son cyclone. Nous tentons de le suivre, nous n'y arrivons pas. Alors, nous recommençons. Dans quel état nous met-il? Dans quel état nous laisse-t-il? Toute cette semaine, l'heure bleue se fait dostoïevskienne. La folie Dostoïevski. Pourquoi en effet autant de mises en scène de théâtre de Dostoïevski par des générations différentes? Pourquoi tant de livres? Vivons-nous une période si troublée, si déchirée, si inquiétante que nous avons besoin de nous replonger dans le sauvage, l'indompté, l'indomptable de Dostoïevski? Nous avons pris toute cette semaine pour guide dans ce voyage dans l'œuvre de Dostoïevski André Markovits, celui qui, par sa traduction, a su nous introduire dans la genèse de l'œuvre et dans les tourments de son âme. Chaque jour donc, un extrait choisi par André Markovits et qui sera lu par Arthur H. Jeudi, Les Frères Karamazov. Mercredi, Crime et Châtiment. Demain, L'Idiot. Ce soir, Les Carnets du sous-sol. Et vous entendrez aussi des amoureuses, demain Julia Kristeva, des amoureux, mercredi Sylvain Creusevaux. Mais comme chaque soir, nous commençons en musique. Et ce soir, ça sera, honneur au lecteur, Arthur H., la plus triste des chansons.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amère et meurtri. Si triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute, oh, oh, oui, chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis des hommes chantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler. Car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession. Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde.
Merci André Markovitz de nous avoir permis ce voyage à l'intérieur de l'œuvre de Dostoïevski. Je me souviens encore de la première fois que j'ai lu votre première traduction de Dostoïevski. C'était Les Carnets du sous-sol.
Oui, c'était en 91-12, un truc comme ça.
Qu'est-ce qui vous a pris de rentrer dans l'œuvre de Dostoïevski ?
Il y avait plein de raisons. Mais la première raison, c'est que ce que je lisais de Dostoïevski en russe, naturellement, parce que je le lisais en russe.
Votre maman est russe.
Oui.
Et c'est donc votre langue maternelle.
C'est ma langue maternelle au sens strict du terme. C'est la langue de ma mère. Et une fois, ma mère, qui était prof de russe à l'université de Caen, a dû faire un cours de civilisation. C'est-à-dire que la cours de civilisation, c'est-à-dire que tu prends des textes en français et tu explique à des étudiants qui n'y connaissent rien ce que c'est que la culture du pays en question. Et elle est tombée sur un texte de Dostoïevski qu'elle connaissait évidemment et qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle lisait en russe. C'est la folie de Lebedev dans l'idiot quand les 100 000 roubles brûlent. Et en russe, tout le monde sait que c'est un moment de chaos total, de folie totale, parce que ce que dit Lebedev est réellement fou. Et chaque traducteur essayait de rendre un peu moins fou. Et ça, c'était vraiment ma première chose, ma première impulsion. Ensuite, il y avait encore autre chose. C'est que, vous voyez, Dostoïevski écrit, mais est-ce qu'il écrit ? C'est-à-dire, il dicte et il parle en écrivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, le primat de la langue orale. Ce qui, en français, pose un problème très sérieux, parce qu'il y a une différence radicale entre la langue écrite et la langue orale. Problème qui ne se pose pas en russe, depuis Pouchkine. Et ça, déjà, il fallait en rendre compte, et donc ne pas traduire un livre, mais traduire tout. Pour que le lecteur, en quelque sorte, s'habitue. Pour qu'il comprenne que c'est pas une folie, que c'est juste une façon de faire. Mais cette langue orale, qu'est-ce que c'est ? C'est une langue par essence, partiale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Mais quand tu parles à quelqu'un, ce qui compte, c'est non seulement ce que tu dis, mais c'est aussi ce que tu ne dis pas. Pourquoi tu ne le dis pas ? C'est-à-dire, l'oralité désigne un continent, en quelque sorte, enfoui, qui est la possible mauvaise foi, le possible mensonge du narrateur. Et ça, c'est fondamental. Parce que la première caractéristique de Dostoïevski, c'est que la vérité du livre n'est pas obligatoirement celle du récit.
Et ça, c'est très important dans l'histoire de la littérature mondiale. C'est ce que vous avez démontré, André Markovitz, c'est que on ne peut pas, nous lecteurs, s'identifier au narrateur de Dostoïevski et ne pas adhérer forcément à ce qu'il dit, parce que le narrateur ment. Mais la dimension du mensonge est essentielle dans l'œuvre de Dostoïevski.
Alors, il ment, par exemple, dans Le Sous-sol. Qui est le type qui parle ? Et pourquoi est-ce qu'il parle ? Ou bien dans La Douce ? Ou bien il ne comprend pas ce qu'il raconte. Et pour toutes sortes de raisons. Par exemple, dans L'Adolescent, qui est un roman écrit à la première personne sur 1000 pages, le narrateur, qui est un adolescent, est comme tous les adolescents, c'est-à-dire qu'il ne voit que lui-même. Il ne voit absolument pas ce qui se passe autour de lui. Et puis, il y a encore un autre genre de narrateur, celui par exemple des démons, ou celui des frères Karamazov, qui est, comment vous dire, quelqu'un qui n'a pas décroché la lune.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dostoïevski. Eh ben, dans les démons, c'est Stepan Trofimovitch, qui n'est pas un personnage foncièrement intelligent, qui explique au narrateur, et le narrateur le montre, que ce narrateur n'a pas compris quelque chose d'évident. C'est-à-dire que dans les démons, c'est raconté par un idiot, par un imbécile. Mais ça, c'est fondamental. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qu'on lit quand on lit les démons? Et dans les Karamazov, c'est une question qui se pose tout le temps. Qui est le type qui parle? Est-ce que c'est un petit moine du monastère d'Alyosha, ou est-ce que c'est un petit bourgeois de la ville, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est aucun des personnages centraux. Donc qu'est-ce qu'il sait de ce qui s'est passé? Et ça, c'est vraiment une dimension fondamentale.
D'où la caractéristique de Dostoïevski, c'est Bakhtine qui avait théoriser ça en disant que c'est du roman polyphonique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Dostoïevski, romancier du polyphonique, André Markowitz?
Je serais très mal placé pour commenter Bakhtine, mais disons ça. Il y a des dizaines de voix différentes. Et il n'y a pas, dans le récit, une vérité unique. Et c'est clair que chaque récit est vu d'une façon différente par chacun de ses protagonistes. Et néanmoins, il y a une vérité. Et cette vérité n'est pas de l'ordre du récit, elle est de l'ordre de la poésie et de la construction de l'image. Eh ben, par exemple, dans Crime et Châtiment, je m'en suis rendu compte d'une façon, parce que j'avais des difficultés à traduire, tout simplement. La première chose que j'ai comprise, j'ai remarqué, que tout dans ce roman était tijelo, c'est-à-dire lourd. Et que Dostoïevski employait ce mot, même quand moi, en russe, j'aurais employé le mot difficile, trudne. Et que le mot trudne, difficile, n'existait pas et que tout était lourd. Après, il y avait des notions de puanteur. Tout pue dans Crime et Châtiment. On va pas passer des heures sur ça, mais c'est vraiment fondamental. Tout pue. Il y a un mot qui n'existe pas dans le roman, que j'ai pas vu. C'est le mot zapr, qui veut dire odeur. Il y a vogne, puanteur. Et il y a un autre mot, à la fois populaire et très noble, dour, qui veut dire littéralement l'esprit, et qui, dans la langue ancienne et dans la langue populaire, parce que les deux sont très liés en russe, signifie l'odeur, mais ça veut dire aussi l'esprit. Je voyais une scène comme ça, l'esprit lourd. Et puis, c'est un roman dans lequel tout le monde marche, et on compte les pas. C'est étrange. On compte le nombre de pas qu'il y a de chez Raskolnikov à chez Porfiry, à chez la vieille, enfin, etc., etc., etc. C'est très étrange. Et puis, à un certain moment, Raskolnikov arrive chez Sonia, la prostituée, et il voit dessus, et il voit chez elle les évangiles. Et il lui demande, «Где тут про Лазаря?» C'est une façon très familière de parler. Dire, «C'est où sur Lazare ici?» Et elle trouve le livre et elle lit. Mais qu'est-ce que c'est la résurrection de Lazare? C'est d'abord il est dans une grotte et Jésus dit ôtez la pierre. Et la pierre est lourde. Après Marthe dit à Jésus mais il pue déjà puisqu'il est mort. Et Jésus dit Lazare vient et marche, sort et vient. Et Lazare fait quelques pas dans son linceul. Et d'un seul coup je me rends compte en traduisant au fur et à mesure que tout le roman n'est pas sur un meurtre que de toute façon on connaît depuis la page 50, mais sur une résurrection non vue, sur la résurrection de Lazare. Et quand Sonia a dit, elle finit la lecture et elle dit « «Это все про Лазаря», », c'est-à-dire « «C'est tout sur Lazare». ». Et ça ne veut pas simplement dire « «C'est tout, c'est fini parce que l'épisode est fini». ». Ça veut dire « «Dieu soit loué», », j'ai pu le traduire comme ça parce que c'est en russe et en français, « «Dieu soit loué», », ça tombe pareil. Que tout est sur Lazare.
Donc traduire vous a introduit dans une autre compréhension de l'œuvre de Dostoïevski, André Markowitz. Je voudrais qu'on revienne à votre première traduction. On va entendre tout à l'heure par Arthur H. la lecture des carnets du sous-sol. Vous nous avez permis de nous introduire dans l'œuvre de Dostoïevski par ce texte qui est essentiel. Et je me souviens que celui qui vous avait demandé la traduction, Hubert Nissen, le fondateur des éditions d'Actes Sud, à réception de votre traduction, vous a dit « Mais c'est terrible, mais c'est trop violent, mais il faut pas commencer par ça, prenons un autre texte, alors, Le Joueur par exemple », et vous avez dit « Non, il faut commencer par ça ».
Alors, ça s'est pas passé comme ça. J'ai proposé ça à Hubert Nissen, et il m'a dit « Fais un essai ». Et je lui ai envoyé le sous-sol, les carnets du sous-sol, la première partie. Il a tout relu, il a fait relire à deux ou trois personnes en dehors de ça, et il m'a dit « Tu es sûr que c'est comme ça ?»
C'est-à-dire comme ça, très violent.
Il m'a dit « Comme ça ».
Comme ça.
Comme ça. Visiblement trop violent, dur, quoi. Et je dis « Bah oui ». Alors il m'a dit un truc, il m'a dit « Alors bon, on fait les œuvres complètes, mais trouve-moi-en un normal pour commencer. »
Un normal. Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans Dostoïevski?
J'ai trouvé cette phrase absolument extraordinaire, extraordinaire, et je lui ai trouvé comme normal le joueur. Donc j'avais d'abord traduit le sous-sol. Et donc c'est pour ça que le sous-sol est le deuxième après le joueur. Comme si le joueur était un roman normal. Et puis après, il a lu ça, il m'a dit « Bon, alors maintenant on va définir un rythme ». Il me laissait libre de traduire à une condition. Chaque année, je devais lui en faire un grand et trois petits.
Vous avez passé votre vie alors à traduire Dostoïevski?
10 ans, j'avais compté qu'il fallait 10 ans. J'ai passé en fait 10 ans et demi, parce que bon, bref, c'est pas grave, j'ai perdu 6 mois.
Si, c'est grave. Mais on va raconter, je sais à quoi vous faites allusion, André Markowitz. Il vous est arrivé une histoire incroyable, sans doute pas la seule avec Dostoïevski. C'est-à-dire qu'un jour, on vous a volé dans votre ordinateur, qui était dans votre voiture, soigneusement fermé à clé, et ben, la traduction.
Oui.
C'était quoi, Crime et Châtiment?
C'était Crime et Châtiment.
Et vous avez été obligé de recommencer.
Bah oui.
Mais vous avez recommencé une autre traduction que celle que vous aviez déjà faite, alors qu'elle était dans votre mémoire.
Mais c'était ça.
Donc il y a plein de Dostoïevski.
C'est-à-dire, c'était un moment où on était, enfin bon, c'était assez compliqué en Bretagne, et on recevait des menaces de mort, etc., etc.
Pas à cause de Dostoïevski.
Pas à cause de Dostoïevski, mais des nationalistes bretons, à certains moments, c'était très violent. Bon, bref.
Ben, traducteur, c'est dangereux.
C'est
dangereux,
André. Surtout pour Françoise Morvan, qui
votre compagne, parce que vous avez, voilà, vous avez pris
ensemble,
position sur les langues régionales, et notamment le breton.
Voilà. Bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Mais, et du coup, je me suis retrouvé sans mon ordinateur. Mais j'avais le contrat, il fallait que je le fasse. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. 3-4 mois de distance, j'ai recommencé. Et je me souvenais que sur plein de choses, je retrouvais pas du tout ce que j'avais traduit à 3 mois de distance.
C'est très impressionnant.
Oui. C'est vraiment. Des fois, je savais que c'était moins bien. Des fois, je savais que c'était quand même mieux. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était pour moi que la traduction. Les points de structure, ce dont je vous parle, le poids, les pas et l'odeur, restaient absolument immuables. C'est-à-dire que la traduction consistait à suivre la structure poétique de l'image. Et que c'était ça qui était fondamental. Et ça, c'est resté intangible. Mais au même moment, j'ai perdu aussi, parce que je traduisais Hamlet au même moment, et j'ai perdu aussi Hamlet.
Quand on fréquente les génies, autant continuer.
Voilà, exactement.
Hein.
Et ben, la même sensation est arrivée. C'est-à-dire que les points de structure restaient absolument immuables et tout le reste était comme flottant.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, André Markowitz, j'aimerais bien que vous nous situiez Dostoïevski à l'intérieur du panorama littéraire de la deuxième moitié du 19e siècle en Russie, parce que certains ont dit que Gogol, Pushkin, Tolstoï, etc. Non, Dostoïevski n'appartient qu'à lui-même. Dostoïevski n'est pas un gueux. Dostoïevski n'est pas un pauvre. Dostoïevski a vécu des aventures extrêmement jeunes qui l'ont précipité dans la mort. Mort qu'il devait recevoir, mais qu'il n'a pas reçue. Et puis, Dostoïevski a été arrêté. Et donc, tout ce dont il parle s'inscrit dans une corporéité de absolument ce qu'il a ressenti. Mais pour autant, il n'y a jamais, sauf je crois dans un seul texte, dites-vous André Markowitz, d'autobiographie dans l'œuvre de Dostoïevski.
Dostoïevski, donc il naît en 1821, et il y a une catégorie qu'il faut absolument oublier, c'est le roman russe.
Pourtant, nous la serine à l'école.
Voilà, voilà. Il y a juste rien de commun entre Tolstoï, Dostoïevski, Gontcharov et Turgenev, sinon le fait qu'ils parlaient russe et qu'ils étaient contemporains, mais c'est tout. Dostoïevski, mais par exemple, Turgenev et Tolstoï sont des écrivains qui appartiennent à la haute noblesse. Et c'est très important parce qu'ils n'ont pas de problème financier. Ils sont libres. Ils font comme ils veulent.
Tandis que Dostoïevski a passé son temps à
gagner de l'argent,
à attendre la copie et un peu d'argent des journaux.
Exactement, exactement. Ensuite, Dostoïevski a eu une enfance très douloureuse par le fait que son père était visiblement non seulement un tyran domestique, mais un tyran tout court. Et il y a de grandes probabilités qu'il a été assassiné par ses paysans, hein, puisqu'à l'époque il y avait le servage et que les paysans appartenaient à leur propriétaire, Dostoïevski, le père Dostoïevski était un petit propriétaire terrien. Ensuite, il y a encore autre chose, Dostoïevski est malade, c'est-à-dire qu'il a l'épilepsie.
Qu'on a détecté chez lui dès l'âge de 7-8 ans.
Oui, quelque chose comme ça. Mais qui a véritablement été, qui s'est révélé à un moment très étrange. Quand, avec Bielinski, qui était un des grands journalistes, un des grands essayistes de la génération précédente, et qui était un progressiste, que Dostoïevski pensait être aussi, partisan de l'Occident et de la démocratie, etc., etc., ils se sont mis à parler du Christ. Et je sais pas, je me souviens plus ce que Bielinski a dit, mais pour Dostoïevski, le Christ était une raison de vivre. L'existence du Christ était une raison de vivre. Et ça a tellement choqué qu'il a eu une crise d'épilepsie. Après, de fait, Dostoïevski a participé à une espèce de complot très étrange, et, enfin, peut-être sans doute aucun complot, mais qui a été créé en quelque sorte par la police tsariste pour créer la terreur, comme quoi ce sont des choses qui sont constantes dans l'histoire de la Russie. Et Dostoïevski a été condamné à mort. Et il a vécu ce traumatisme de l'exécution. Il a été persuadé jusqu'à 10 secondes avant le coup de feu qu'il allait mourir. Et de là, il a tiré finalement la réflexion sur l'idiot. Qu'est-ce que c'est que ces 10 dernières secondes? Ensuite, il a vécu au bagne. Et là, il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous voyez ce bagne, par exemple. Le titre russe, c'est « Zapiski iz mertvova doma ». C'est-à-dire littéralement « carnet » ou « Zapiski », c'est ce que vous écrivez, hein, issu de la maison morte et pas de la maison des morts. Ça veut dire que à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de la structure de l'État, de l'administration, appelons ça comme on veut, les gens, laquelle est morte, les gens sont vivants. C'est-à-dire c'est le premier livre sur, en fait, qu'est-ce que c'est que la vie dans sa l'essence même de la vie, le noyau dur de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? Et c'est de ça que parle ce livre absolument grandiose qui a créé la littérature des camps. De là vient Sakhaline de Tchekhov, et puis après toute la littérature du XXe siècle, de ce livre-là.
Y compris Solzhenitsyn.
Mais bien sûr, absolument. Et puis, Dostoïevski est un journaliste qui essaye de vivre de sa plume. Et puis encore autre chose, il est malade parce qu'il est addict au jeu. Et ça, c'est encore autre chose.
D'où le joueur.
D'où le joueur, absolument. Et à chaque fois, il y a sa vie personnelle, mais en quelque sorte une espèce de vision métaphysique de ça.
On vous a demandé, je vous en remercie infiniment, de sélectionner des textes de Dostoïevski. Jeudi, ce sera un extrait des Frères Karamazov. Mercredi, ça sera des extraits de L'Idiot. Demain, des extraits de Crime et Châtiment. Et ce soir, les carnets du sous-sol. Alors, un mot des carnets du sous-sol. Vous avez choisi délibérément une méthode chronologique pour nous introduire dans l'univers de Dostoïevski. Pourquoi ?
Je pense que c'était le plus simple. Les carnets du sous-sol, c'est peut-être le livre le plus caractéristique de Dostoïevski. Et si on supporte ça, alors on peut supporter tout le reste. Je pense que c'est le plus caractéristique et le plus effrayant. Parce que c'est là encore une recherche des limites de l'insupportable. Vous comprenez? Ben justement, Turgenev. Tu lis Turgenev, et en quelque sorte, tu éprouves une empathie avec les personnages. Tu éprouves une joie extraordinaire du style de Turgenev. Et tu participes à la beauté du monde. Il n'y a aucune beauté du monde dans un livre comme les carnets du sous-sol. Il n'y a aucune empathie possible. Il n'y a qu'une espèce de rage. La première phrase, c'est « Я злой человек ». Я злой человек. Je suis un homme méchant. Et qu'est-ce que c'est que cette méchanceté-là? Qui est, je pense, au cœur du XXe siècle, alors que c'est 1864. Écrit en 1864. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pensais que c'était mieux de commencer par ça.
Merci André Markowitz, merci de nous permettre ce voyage dans l'œuvre de Dostoïevski. Vous écoutez L'Heure Bleue, L'Heure Bleue, la folie Dostoïevski. Vous écoutez Cat Power, Bad Religion.
We'll be right back.
Vous écoutez France Inter, La folie Dostoïevski numéro 1, place à la lecture avec Arthur H. dans un extrait des Carnets du sous-sol.
Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Je pense que j'ai mal au foie. De toute façon, je n'entends rien à ma maladie. Et je ne sais pas au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas. Et je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, qui plus est, je suis superstitieux au dernier degré. Enfin, assez pour respecter la médecine. Je suis assez instruit pour ne pas être superstitieux, mais je suis superstitieux. Non, si je ne veux pas me soigner, c'est par méchanceté. Ça, monsieur, c'est une chose que vous ne comprenez pas. Eh bien, moi, je comprends. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement bien que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seul et à personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie. Tant mieux qu'il me fasse encore plus mal. Il y a longtemps que je vis comme ça, dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Avant, j'étais un fonctionnaire. Maintenant, je ne suis plus fonctionnaire. J'étais un fonctionnaire méchant. J'étais grossier. C'était une jouissance. Je ne prenais pas de pot de vin, vous comprenez. Il fallait bien que je me dédommage, ne serait-ce que comme ça. Mauvaise pointe, mais je ne la barre pas. Je visais l'effet comique en l'écrivant. Maintenant, je comprends assez que je ne cherchais qu'à crâner, d'une façon ridicule. Je ne barre rien, exprès. Parfois, les solliciteurs s'approchaient de ma table pour un renseignement. Je grinçais des dents en guise de réponse et je ressentais une jouissance insatiable quand j'arrivais à leur faire de la peine. J'y arrivais presque toujours. Ils étaient presque tous bénis, oui, des solliciteurs. Mais parmi tous les gondins, il y avait surtout un officier que je ne pouvais pas voir en peinture. Il refusait absolument de se soumettre et faisait un tintouin dégoûtant avec son sabre. Moi, pour ce sabre, je lui ai fait la guerre 6 mois durant, et je l'ai eu. Il m'a mis en sourdine. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Et cependant, messieurs, savez-vous ce qui surtout faisait le fond de ma méchanceté? C'est là qu'était le nœud de l'affaire. C'est là qu'était la saleté la plus nauséabonde, qu'à chaque instant, même dans mes montées de bile les plus irrépressibles, je comprenais honteusement que non seulement je n'étais pas un homme méchant, je n'étais même pas écrit, je ne passais mon temps qu'à faire peur aux moineaux, et je trouvais là toute ma satisfaction. J'avais l'écume aux lèvres, mais il aurait suffi qu'on m'apporte une poupée, qu'on me donne du thé avec du sucre, je me serais radouci, je vous le jure. Même l'émotion m'aurait serré la gorge. Après, sans doute aurais-je grincé des dents contre moi-même, de honte. Et j'aurais eu des insomnies pendant des mois. Je suis comme ça. J'ai menti plus haut, en disant que j'étais un fonctionnaire méchant. J'ai menti par méchanceté. Les solliciteurs ou l'officier, c'était un jeu, rien d'autre. En fait, je n'ai jamais pu devenir méchant. Je ressentais à chaque instant au fond de moi une foule, oui, une foule d'éléments les plus hostiles à la méchanceté. Je les sentais grouiller à l'intérieur, ces éléments hostiles. Je savais bien qu'ils y avaient grouillé toute ma vie et qu'ils ne demandaient qu'à jaillir au dehors. Mais je refusais. Je refusais. Oh ouais, je refusais de les voir jaillir. Ils me martyrisaient jusqu'à la honte. Ils en arrivaient à me donner des convulsions. Et comme j'ai fini par en avoir assez, mais assez, tout doux, monsieur, n'auriez-vous pas l'idée que je me bats ma coulpe devant vous? Que tout se passe comme si je vous demandais pardon de je ne sais quoi? Je suis sûr que oui. Bah, pensez ce que vous voulez, moi, je vous assure que ça m'est égal. Non seulement je n'ai pas su devenir méchant, mais je n'ai rien su devenir du tout, ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Maintenant que j'achève ma vie dans mon trou, je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile. Car quoi ? Un homme intelligent ne peut rien devenir. Il n'y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du 19e siècle se doit, se trouve dans l'obligation morale d'être une créature essentiellement sans caractère. Un homme avec un caractère, un homme d'action, est une créature essentiellement limitée. C'est là une conviction vieille de 40 ans. Maintenant, j'ai 40 ans, et 40 ans, c'est toute la vie. La vieillesse la plus crasse. Vivre plus de 40 ans, c'est indécent, c'est vil, c'est immoral. Qui donc vit plus de 40 ans? Répondez sincèrement, à main sur le cœur. Je vous le dis, moi, les imbéciles et les canailles. Je leur dirai en face à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs parfumés de bain-joint. Je leur dirai à la face du monde, j'ai bien le droit de le dire. Je vivrai au moins jusqu'à 60 ans. Je survivrai jusqu'à 70 et jusqu'à 80. Ouf, laissez-moi souffler. Vous devez croire, messieurs, que j'ai l'intention de vous amuser. Là aussi, vous faites erreur. Je ne suis pas du tout le bout en train que vous croyez, ou que vous croyez peut-être. Mais si ce bavardage vous énerve, et je sens qu'il vous énerve, et s'il vous vient l'idée de me demander « Qui suis-je au juste ?», je vous réponds « Je suis un assesseur de collège. J'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. Et puis l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner et je me suis installé chez moi, dans mon trou. J'y habitais avant, dans ce trou, mais maintenant, je m'y suis installé. » Ma chambre est moche, elle est sale, elle est au bout de la ville. Ma bonne est une paysanne, elle est vieille, elle est bête et méchante. En plus, elle pue, que c'est insupportable. On me dit que le climat de Pétersbourg me fait du mal et qu'il est très coûteux de vivre à Pétersbourg avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d'expérience, mieux que les bénis oui-oui. Eh bien, je reste à Pétersbourg. Je ne sortirai pas de Pétersbourg. Si je ne sors pas, c'est que... Ah, mais ça n'a rigoureusement aucune importance que je sorte ou que je ne sorte pas. Mais bon, de quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir? Réponse, de lui-même. Et donc, je parlerai de moi. Maintenant, monsieur, je vais vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n'ai même pas pu devenir un insecte. Je vous le dis avec solennité. J'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises. Et même là, je n'ai pas eu l'honneur. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie. Une maladie dans le plein sens du terme. La vie quotidienne ne se contenterait que trop d'une conscience normale, c'est-à-dire d'une conscience inférieure de moitié ou des trois quarts à celle qui est le lot de l'homme évolué de notre infortuné 19e siècle. D'un homme qui aurait, de plus, le malheur particulier d'habiter Pétersbourg, la ville la plus abstraite et la plus préméditée de la planète. Il y a des villes préméditées ou des villes spontanées. Par exemple, on aurait largement assez de la conscience qui pousse les hommes, soi-disant d'exception, ou les hommes d'action. Ma main au feu, vous vous dites que j'écris ça pour crâner, pour faire le malin sur les hommes d'action, que mes crâneries sont de mauvais goût et que je fais du tintouin avec mon sabre comme mon officier. Hola, monsieur. Avez-vous déjà vu quelqu'un se vanter de ses maladies ou, à plus forte raison, crâner avec? Que dis-je? Mais tout le monde! C'est bien de ces maladies qu'on se vante, et moi le premier. D'accord, ma réplique ne valait à rien. Et néanmoins, je reste fermement convaincu que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. J'insiste. Laissons cela aussi pour l'instant. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce justement, comme par hasard, dans les mêmes minutes, oui, les minutes mêmes où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses du beau et du sublime, comme on disait jadis, qu'il m'arrivait non plus d'avoir conscience, mais d'accomplir des actes si peu reluisants que... Bref, en un mot, qui sont le lot de tous, mais que je faisais, moi, comme par hasard, dans les instants précis où je sentais le plus que je ne devais pas les faire. Plus je prenais conscience du bien, de tout ce beau et ce sublime, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement. Mais l'essentiel restait que ça ne semblait jamais fortuit, comme si c'était ce qu'il fallait. comme si c'était là mon état naturel, et non ma maladie ou mon défaut. De sorte qu'à la fin, j'ai perdu toute envie de combattre ce défaut. Et j'ai fini par faillir croire, peut-être l'ai-je cru vraiment, que c'était bien cela mon état naturel. Mais d'abord, au début, que n'ai-je pas dû subir dans cette lutte ? J'étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas. Je cachais donc cela comme un secret. J'avais honte, peut-être ai-je honte jusqu'à ce jour. J'en arrivais à ressentir je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Pétersbourg, et que j'avais une conscience accrue d'avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté. Et ce que j'avais fait étant irréparable, je me rongeais secrètement de l'intérieur. Je me rongeais à toutes dents, me taraudais et me bouffais moi-même, jusqu'à ce que l'amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur, et puis une jouissance franche et grave, une jouissance, oui, une jouissance, j'insiste. J'en parle parce que j'ai toujours voulu en avoir le cœur net. Les autres ressentent-ils ce genre de jouissance ? Que je vous explique. Cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement, du fait que vous vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade, et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux, qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre, que même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer. Et que si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai peut-être que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer. Surtout et à la fin des fins, cela se produit suivant les règles naturelles, fondamentales, de la conscience accrue et de l'inertie qui en découle directement. Et donc, en conséquence, non seulement il n'y a plus moyen de se transformer, mais il n'y a tout simplement plus rien à faire. Vous arrivez, par exemple, à cela avec votre conscience accrue. Vous faites bien d'être une canaille, comme si c'était une consolation pour une canaille, d'avoir conscience qu'elle est vraiment une canaille. Pourtant, assez. Ça, pour parler, j'ai bien parlé, mais j'ai expliqué quoi ? Comment s'explique ce genre de jouissance ? Si, si, je m'expliquerai. Je finirai par y arriver. C'est pour cela que je me suis mis à écrire. Par exemple, j'ai un amour-propre effrayant. Je suis susceptible et rancunier comme un bossu ou comme un nain. Et cependant, j'ai vécu des minutes où si je n'avais reçu une gifle, j'aurais bien pu en être heureux. Je ne ris pas. Sans doute aurais-je été capable de découvrir même là une sorte de jouissance, jouissance du désespoir. Cela s'entend. Mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants. Surtout si l'on ne ressent que trop l'impasse où nous sommes tombés. Et là, cette gifle, comme elle vous écrabouille la conscience. De voir quelle crotte on vient de faire de vous. L'essentiel, quoi qu'on en dise, c'est quand même cela. Que c'est moi le premier coupable de tout. Et le plus humiliant, c'est que je suis coupable sans péché, pour ainsi dire, selon les seules lois de la nature. Parce que d'abord, je suis coupable d'être plus intelligent que tous ceux qui m'entourent. Je me suis toujours senti plus intelligent que tous ceux qui m'entouraient, et quelquefois, me croirez-vous, j'en ai même éprouvé des scrupules. Du moins, toute ma vie, ai-je regardé, pour ainsi dire, de biais, et me suis toujours montré incapable de regarder quiconque droit dans les yeux. Parce que je suis coupable, enfin du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouvais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité. Je crois que je ne saurais pas quoi faire avec ma grandeur d'âme, ni pardonner à mon offenseur, s'il m'a frappé en vertu des lois de la nature, car il est impossible de pardonner aux lois de la nature, ni oublier, parce que les lois de la nature sont ce qu'elles sont, mais l'humiliation aussi. Et même si j'avais voulu ne pas avoir la moindre grandeur d'âme, si j'avais désiré au contraire tirer vengeance de mon offenseur, j'aurais été bien incapable de le faire parce que, sans doute, je n'aurais jamais pu me décider. Et ça, même si j'en avais eu la possibilité. Pourquoi n'aurais-je pas pu me décider ? Je veux dire deux mots sur le sujet.
interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path.
Et c'est avec Nick Cave, Into My Arms, que nous allons nous quitter ce soir pour ce premier épisode de La Folie Dostoïevski, en espérant vous retrouver demain. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à André Markowitz qui a choisi les textes de Dostoïevski qui ont été publiés aux éditions Actes Sud dans sa propre traduction et qui sont disponibles en livre de poche dans la collection Babel. Merci à Arthur H, pour la lecture des extraits. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément. Et merci, bien sûr, à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et nous espérons vivement nous retrouver demain pour La Folie Dostoïevski, numéro 2.